J'ai une question pour vous, juste pour commencer. Qui, entre les hommes et les femmes, se regarde le plus souvent dans le miroir? Ah, bonne question, hein, le plus souvent. Qui vote pour les femmes? Moi, je ne vais pas voter. Hein. Un, deux, trois. Ok, pour les hommes? Ah, les femmes gagnent quand même encore. Alors, selon les statistiques, la première place est, attention, pour les hommes. Avec 23 fois par jour. Hein. On est un peu narcissique sur les bords. Hein. Et les femmes, 16 fois par jour. Attention, attention. Et est-ce que vous pensez que c'est les hommes qui passent le plus de temps devant un miroir? Ou est-ce que c'est les femmes? Donc, est-ce que c'est les femmes? Ah, ça, vous avez raison par contre. Les hommes passeraient en moyenne 10 minutes par jour devant le miroir, ce qui nous fait environ 2,5 jours par année. Okay. En revanche, les femmes, c'est en moyenne, hein, pas tout le monde, hein, 55 minutes par jour. Waouh! Donc les hommes, en fait, ils passent 10 minutes par jour pour se raser, en résumé. Donc environ, les femmes, c'est 335 heures par année. Ce qui fait environ 2 semaines par an. Je ne vais pas vous culpabiliser, hein. Moi aussi je passe un peu plus que 10 minutes des fois par jour. Des chiffres qui nous donnent quand même un peu le tournis, je ne sais pas vous, hein, qui semblent énormes, qui semblent beaucoup. Des fois réalistes pour certains, des fois pas réalistes, hein. Peut-être vous passez encore plus de temps, hein, je ne sais pas, ou peut-être moins de temps. Cela nous montre quelque chose d'important. Notre apparence est importante. Notre apparence est importante. Ce matin, je suis venu, je me suis douché pour votre plus grand bonheur, surtout celui de votre nez. Nous souhaitons être présentables quand même, ce qui est totalement normal et bon, hein, on est tous d'accord. Je ne vais pas venir dégoulinant, pas douché depuis une semaine. Là, je ne serai vraiment pas pasteur, ça c'est sûr. Mais cela nous montre aussi quelque chose. Nous passons beaucoup de temps pour prendre soin de notre physique, de notre apparence extérieure. Et est-ce qu'on prend également autant de temps pour notre être intérieur, pour prendre soin de notre état spirituel, notre état intérieur? Et ce matin, mon souhait est qu'on puisse passer plus de temps, vous encourager, m'encourager aussi, moi, parce que c'est aussi un défi pour moi, de prendre plus de temps pour notre état spirituel. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau ». Peut-être vous connaissez un peu la référence. Hein, c'est Disney, Blanche-Neige. La reine pose la question, elle arrive et puis elle est devant un miroir magique et elle fait « Qui est le plus beau du royaume ?» Je ne me rappelle plus exactement des termes qu'elle utilise. Et le miroir lui disait toujours « C'est vous ma reine, c'est vous ma reine ». Le miroir n'a pas le droit de mentir. Et d'un coup, il dit, c'est pas vous. Il y a quelqu'un qui est encore plus beau, qui est blond comme la neige, avec les lèvres comme la pomme ou comme les abricots, je ne me rappelle plus ce qu'elle dit. Comme un fruit, quoi. Enfin bref, il y a quelqu'un de plus beau qu'elle. Mais avant de continuer, je vous invite à vous ouvrir votre Bible, où il y aura aussi sur le PowerPoint, en Jacques 1, versets 19 à 27. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion et sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans la détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Jacques, c'est un auteur qui se veut très pratique. Il va prendre des exemples de la vie de tous les jours. Il parle de miroir, d'écouter, de parler, des choses que l'on fait tous les jours, plus ou moins. Quand on passe une journée tout seul à la maison, on ne va pas beaucoup parler. Hein. Mais il y a aussi un aspect très fort chez Jacques. Jacques encourage, il exhorte. Et on remarque qu'il y a beaucoup d'impératifs dans le texte. Il n'est pas là juste pour conseiller, pour dire « Ah, mais il faudrait que tu fasses ça ». Non, il dit « Fais ci, fais ça. Vas-y, je t'exhorte, je t'encourage ». Et même s'il est impératif dans sa façon d'encourager, il est réaliste et encourage le chrétien de toujours avancer dans sa vie, de toujours voir sa vie comme un chemin, d'avancer. Comme dirait Paul, la vie est une course, la foi est une course vers la couronne de la vie, comme Jacques le dit au verset 12 de son premier chapitre. Jacques encourage à mettre la foi en pratique, de ne pas juste voir la foi comme un gain, et ne rien faire par la suite, mais la mettre en action. Et est-ce qu'on est prêt à mettre notre foi en pratique ? Douglas Gimou, un théologien, il dit « Le désir profond de Jacques que le chrétien abandonne cette demi-foi et fasse des progrès vers une consécration totale à Dieu sans demi-mesure, en pensée, en parole et en action, et au cœur de son message. » Être un chrétien sans demi-foi. John Wesley, que vous connaissez peut-être, dit ceci « D'un seul regard, c'est la pureté d'intention. Consacrant toute la vie à Dieu, c'est donner tout notre cœur à Dieu, c'est qu'un désir et un but contrôlent toute notre attitude. C'est la consécration, non d'une partie, mais de toute notre âme, notre corps et notre substance à Dieu. » Jacques nous encourage à non seulement écouter et croire à Jésus, mais il nous encourage à mettre notre vie consacrée à Dieu, à mettre en pratique ce que Jésus a dit. Connaître la Bible, connaître la bonne nouvelle est une chose, mais la mettre en pratique est une autre. Vous l'avez sûrement remarqué dans la vie. Pourquoi la mettre en pratique ? Pour que nous puissions être des chrétiens utiles pour l'œuvre du Christ. Qu'on puisse être toujours plus à son image. Et ne pas nous endormir sur ce que l'on sait ou ce que l'on est. La Bible, Dieu à travers Jacques, nous dit de toujours chercher à être transformé par Dieu. De toujours avancer. Pour ne pas devenir religieux, sans relation avec Dieu. Pour ne pas être trompé par l'ennemi qui cherche à nous éloigner de Dieu, jusqu'à nous faire croire qu'il n'y a plus rien à changer, ou qu'il suffit juste d'avoir des pratiques religieuses, de venir le dimanche matin, de venir des fois à la réunion de prière, vous savez. Jacques nous encourage à ne pas avoir une foi à demi-mesure. Et pour cela, nous allons voir plusieurs points qui ressortent de ce que Jacques nous dit. On va en voir trois ce matin, parce que je n'ai pas la journée. La responsabilité, l'humilité et l'amour. Premier point, la responsabilité. Comme nous l'avons vu avant, Jacques plutôt, encourage. Il nous met la responsabilité d'avancer avec Dieu. Au verset 19, il nous dit qu'il faut être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Ce n'est pas seulement écouter, mais c'est être disponible. Chercher à écouter son prochain. Vous savez, il y a toujours différentes façons d'écouter. Lorsque quelqu'un vous parle, soit vous êtes attentif à ce qu'il vous dit, ou soit vous écoutez juste un peu au fond. Vous avez votre regard qui se perd, des fois pendant la prédication. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps, je regarde un peu les lumières et d'un coup, je me dis, mince, je suis le pire dans les prédications. Ces deux écoutes sont l'écoute active et l'écoute passive. L'écoute active, c'est écouter vraiment la personne, boire ses paroles. Et c'est aussi s'intéresser à la personne. Vous savez, quand quelqu'un parle, partage son cœur, parfois, c'est vrai qu'on a du mal. Moi, souvent, je décroche. Et l'écoute active, ça demande plus d'énergie. Ça demande de s'intéresser à la personne. Ça demande de s'intéresser à son cœur, ce qu'elle cherche à nous partager, à nous expliquer. Et Dieu, à travers Jacques, nous dit qu'il faut être actif, avoir cette écoute active. Actif à l'écoute des autres et de la parole de Dieu, de la Bible. Vous savez, lorsqu'on est prompt à faire quelque chose, nous le faisons avec une intention toute particulière, avec une concentration d'autant plus particulière, et puis une excitation très présente. On est prompt, on est content, on veut faire. Lorsqu'on est prompt à faire quelque chose, il nous est impossible de faire autre chose. Nous nous réjouissons de le faire. Vous connaissez peut-être le fait que les hommes peuvent faire juste une chose à la fois et les femmes deux choses à la fois. On est tous d'accord. C'est faux. Je veux juste mettre un mythe, comme ça, casser un mythe. C'est pas parce que je suis un homme que je dis ça, mais c'est faux. Notre cerveau, il peut faire qu'une seule chose à la fois. C'est vraiment prouvé scientifiquement. Je dis pas ça comme ça, ça sort. C'est vraiment prouvé comme quoi le cerveau peut faire juste une chose à la fois, une tâche à la fois. Et si vous remarquez, des fois, quand on a l'impression de faire deux tâches à la fois, en fait, soit il y a des tâches qu'on ne fait pas forcément bien correctement, ou soit on est décalé, ou tout ça. Et ça me fait penser à la louange. Moi aussi, je fais de la louange, la guitare et tout. Et puis, concentrer l'idée, chanter et jouer de la guitare, des fois, le cerveau, il bug un peu. Et soit on se concentre sur chanter, soit on se concentre sur la guitare, ou soit on se concentre sur Dieu. Et des fois, c'est compliqué d'avoir les trois. Donc, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Jacques nous appelle à être attentifs à cette voix de Dieu. Cette voix de Dieu qui peut se traduire à travers la Bible, à travers des personnes, à travers des paroles comme on l'a eu, à travers des moments de prière, à travers la nature. Il y a plein de manières dont Dieu nous parle. Aussi, les sentiments, les circonstances de la vie. Être prompt, c'est être prêt à recevoir la parole qui nous est destinée. Et c'est de prendre la responsabilité de ce qui va être dit. Ne pas juste écouter passivement, mais avoir cette écoute active. Cette écoute qui nous responsabilise, qui nous transforme, qui nous aide à aller plus loin. Nous avons également le fait d'être lent à parler. Lent à parler. Peut-être un de mes plus grands défauts. Vous avez remarqué, là je débite quand même. D'ailleurs, je vais boire un peu d'eau parce que sinon je vais tomber. Mais mes parents, ils me disaient toujours quelque chose. Ils me disaient, Guy, réfléchis avant de parler. Tourne la langue 7 fois dans ta bouche. Je ne sais pas si vous avez pareil, mais j'ai dû apprendre à essayer de réfléchir avant de parler. Du moins, j'essaye. Lent à parler. Mais pourquoi Jacques nous dit ça? Pourquoi Jacques nous dit ça? Parce que la parole a un impact. Nous sommes responsables de ce qu'on dit. Et Satan s'empare de nos paroles pour qu'elles soient ancrées dans le cœur de notre prochain, dans le cœur de notre conjoint, dans le cœur de notre famille, dans le cœur de nos amis. On dit souvent que si on reçoit 5 paroles désagréables et une agréable, nous retenons celle de désagréable. Pardon, c'est plutôt le contraire. Si on reçoit 5 paroles agréables et une de désagréable, nous retenons celle de désagréable. Certes, il y a parfois où nous nous trompons. Des fois, hier, je jouais avec mes colocs à FIFA, à la PS5, j'étais pas forcément tendre avec mon coloc. Mais bon, j'ai gagné, donc ça allait. Des fois, on se trompe. Et heureusement, Dieu est là, et il y a son pardon, et il y a sa grâce. Et heureusement aussi, il restaure tout ce qu'on brise, des fois, sans faire exprès, ou des fois, malheureusement, en faisant exprès. Cependant, nous portons quand même la responsabilité de nos paroles et des conséquences qui suivent. J'ai un peu taquiné mon coloc. Il a failli casser la manette. Ça aurait été plus de ma faute que de sa faute, je pense. Jacques nous dit cela au chapitre 3, versets 8 à 10. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Il y a un aspect très fort, car en maudissant, nous maudissons la création de Dieu. Et souvent ça, on l'oublie. Nous manquons de respect à la création de Dieu. Ayons donc des paroles douces et justes et remplies d'amour. Au lieu de dire « tu es bête, tu es nul à FIFA », disons « vas-y, je t'encourage ». Ou sinon, là, dans mon cas, je dirais rien. C'est le plus simple. Tu es bête, tu n'arrives à rien, tu as encore échoué, tu es moche, tu as un accident de la vie. tellement de choses que j'ai entendues de la part des personnes qui ont vécu ça. Ou peut-être vous avez vécu ça à l'école. Et puis même si c'est pour rigoler. Vous savez, des fois, entre amis, on se dit des petites piques comme ça. Moi, je suis très taquin aussi. Et puis, pourquoi ne pas élever la personne et l'encourager? Je crois que c'est mon but depuis des années et des années, c'est d'essayer de changer ce comportement chez moi. Jacques nous encourage aussi à nous regarder dans le miroir, en prenant note de nos imperfections et de travailler dessus. Jésus dit ceci en d'autres termes, c'est qu'il faut d'abord regarder la poutre dans notre œil avant la paille qui est dans l'œil de son voisin. Lorsqu'on regarde le miroir, nous prenons note de notre coiffure. Hein ? Ce matin, je me suis coiffé, j'étais là, allez, c'est bon, il faut que j'aille chez le coiffeur, j'ai une tête de Playmobil. Mais on regarde notre coiffure. Et si ce n'est pas comme on veut, on fait vite des petites retouches. On fait vite des petites retouches, on fait les modifications nécessaires lorsqu'on se rase, lorsqu'on se maquille. Et Jacques nous encourage à faire de même. À ne pas faire l'effet contraire. On ne sait pas pourquoi on se regarde dans le miroir. Ça me fait penser à une autre situation. Je n'ai pas mon attelle sur moi, mais maintenant j'ai une montre. Je me suis dit, je viens bien près de Tramelant, je vais mettre une montre, Tissot, Suisse. Mais quand on n'a pas de montre, on regarde notre heure sur une attelle. Combien ça vous est arrivé de fois, moi je pense, je ne sais pas combien je pourrais compter ça, où je dis genre, oh je regarde l'heure, je sors mon attelle, oh des notifications, je ne regarde même pas l'heure, je range. Et on ne regarde même pas l'heure. Ça m'arrive pas qu'à moi, ça n'arrive pas. Ah, je me sens rassuré, c'est bon. Ici, Jacques, il nous dit de faire pareil. Il nous donne la responsabilité de ce qu'on voit. Tu regardes l'heure, ben regarde l'heure. Tu regardes qui tu es, ben regarde qui tu es. Le miroir dont Jacques parle ici est la Bible. Et lorsqu'on lit la Bible, il faut qu'on prenne la responsabilité d'être prompt à écouter ce que Dieu veut nous dire à travers elle. Lorsqu'on lit la Bible, le but n'est pas juste de la lire pour lire, mais être prompt à être transformé par elle, à ouvrir puis dire « Seigneur, que veux-tu me dire ce matin ?» Rappelez-vous du titre de mon message « Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau ?» Et qu'est-ce qu'il va répondre ? Qu'est-ce qu'il va répondre le miroir ? Il va dire « C'est Jésus, fils du Dieu sauveur. » Et à ce moment, nous avons deux solutions. Supprimer le problème, comme l'ont fait les détracteurs de Jésus en le clouant sur la croix. Encore comme l'a fait, vous vous rappelez, comme plutôt a essayé de faire la reine avec Blanche-Neige, en l'endormant avec une pomme. Hop, on supprime le problème. Ou deux, on accepte et on prend exemple sur la personne. Et c'est ce que firent Jacques, Paul et tous les autres depuis plus de 2000 ans. Suivre l'exemple de Jésus, Christ, pratiquement tous les jours de leur vie. Jacques nous encourage fortement à prendre la deuxième solution, se laisser transformer par la grâce de Dieu et prendre cette responsabilité d'essayer de suivre la Bible, la parole de Dieu, l'exemple qui est Jésus. Au verset 25, il est écrit « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Plonger les regards n'est pas seulement de regarder, mais c'est regarder attentivement, avoir cette écoute active. Nous pouvons, vous savez, même traduire le verbe « regarder » là, nous pouvons le traduire du grec « enquêter ». C'est étudier la loi parfaite, celle qui nous rend libres. Libres de toutes nos condamnations, libres de nos fautes, libres de nos blessures, libres de la mort. Libres d'être heureux. D'être heureux dans son activité, dans tout ce qu'on fait. Mais pour cela, il faut se mettre au travail, il faut persévérer, il faut lire la Bible, il faut passer du temps avec Dieu. Et puis accueillir avec humilité ce que la Bible veut nous dire. Ce qui m'amène à mon deuxième point, l'humilité. Jacques 1, 21, c'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, pardon, et accueillir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Accueillir avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Donc nous pouvons accueillir, nous pouvons traduire plutôt, ou aussi accueillir avec humilité. la parole qui a été plantée. Accueillir avec humilité, accueillir avec douceur, accueillir avec humilité. L'humilité d'accepter de changer, l'humilité d'accepter de faire des efforts. L'humilité d'accepter que seuls, nous ne pouvons rien faire. Le verset nous apprend quelque chose sur la parole. Elle a été plantée et c'est elle qui sauve l'âme. C'est elle qui nous donne la vie éternelle. L'orgueilleux va être tenté sur lui-même. Il va prouver qu'il a raison et que les autres ont tort. Il va trouver une excuse pour discréditer les paroles de la personne qui nous fait des remarques. Et ce fonctionnement est aussi valable devant Dieu et devant sa Bible. Vous savez, nous avons tous eu des remarques désagréables. Et au lieu de parler direct pour trouver des excuses ou se justifier, ou se remettre direct en question, ou encore se mettre direct en colère, on essaye de contourner les problèmes. On nous dit quelque chose, « Guy, tu devrais améliorer ça. Guy, tu devrais améliorer tes paroles quand tu joues à FIFA face à ton coloc. » Et au lieu de dire genre, « Oui, mais bon, il m'énervait. » Non, c'est « Ok. » Ok, je vais me remettre en question, ok, désolé. Prendre le temps, prendre, vous savez, du recul sur ce qu'on a reçu. Ça, c'est essentiel. Des fois, nous recevons des critiques, des fois, elles sont mal formulées aussi, et ça fait mal. Et des fois, on a besoin de prendre, d'avoir cette humilité, de regarder, prendre du recul, et des fois, de prendre ces remarques plus tard. Souvent, quand je reçois une critique ou comme ça, que ce soit dans les messages, que ce soit dans beaucoup de choses, je me dis, ok, maintenant, là, sur le moment, ça me fait mal, mais je garde cette remarque et puis après, je vais essayer de fouiller. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est pas justifié? Est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Oui ou non? Et cette étape est particulièrement dure car elle demande d'accepter de changer le regard sur qui on est. Et des fois, je fais, je prends pas ce que tu dis. Je dis dans mon cœur, je prends pas ce que tu dis. Et cela, c'est vraiment dur. Et nous sommes tous en chemin par rapport à ça. Ce chemin d'humilité. De pouvoir regarder dans le miroir de la Bible et d'accepter ce qu'elle a à nous dire, que ce soit pour s'améliorer ou pour affirmer quelque chose. Ça peut nous faire prendre conscience de la vulgarité de nos paroles, de nos blagues déplacées qui blessent les gens, de la violence que l'on peut porter sur notre entourage, sur nos différentes addictions comme l'alcool, la pornographie ou autre. L'addiction aux réseaux sociaux. Je vois plusieurs jeunes dans la salle, aussi peut-être des moins jeunes hein, dans la salle, Facebook, Instagram, TikTok. J'essaye de faire des cures de réseaux sociaux. Cette parole de Dieu va mettre en lumière afin que l'on puisse toujours plus se rapprocher de l'image du Christ. Il y a aussi les paroles qui vont te rappeler que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ça, il ne faut pas les oublier. Que tu es une personne précieuse, que tu as besoin d'aide pour guérir des blessures, que tu es un enfant de Dieu et que ce qui t'arrive n'est pas normal. De vivre le rejet, ce n'est pas normal. De vivre de la violence physique, ce n'est pas normal. Psychologique ou encore économique, ce n'est pas normal. De vivre des abus sexuels, des abus spirituels, ce n'est pas OK. Ce n'est pas normal, c'est même grave. La Bible peut mettre en lumière ce qu'il faut changer, régler et mettre en lumière comme Dieu te voit aussi, comme un fils, comme une fille, bien-aimée et important à ses yeux. Voir la Bible comme un miroir, c'est de voir au-delà de ce que l'on voit de nous-mêmes, que ce soit en amélioration ou en affirmant des vérités sur qui on est. Ne soyons pas des personnes qui pensent que nous sommes parfaits et qu'il n'y a pas grand-chose, plus grand-chose à changer. D'ailleurs, Jacques, il nous met en garde, il dit « Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. » Sa religion est sans valeur. Réfléchir avant de parler, réfléchir avant d'agir, tenir sa langue en bride pour ne pas aussi blesser ceux qui nous entourent et être rempli d'amour. Et j'arrive sur mon dernier point, l'amour. C'est la conclusion du chapitre 1 de Jacques. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Prendre soin des personnes qui nous entourent et ne pas rentrer dans un égoïsme, un égocentrisme, qui existait déjà il y a 2000 ans, et je pense depuis le début de l'humanité, depuis le début de la chute, et qui existe encore aujourd'hui. Ce qui me touche, c'est de prendre soin des orphelins et des veuves. Prendre soin à ceux qui en ont besoin. C'est d'occuper de son prochain en sachant qu'il ne peut pas nous le rendre. Une veuve à l'époque, elle n'avait plus rien, pas d'aide, tout ça. Et quand on donnait, quand on l'aidait, il ne fallait pas s'attendre à voir son argent en retour ou voir son aide en retour. Un orphelin, pareil, pour ceux qui ont des enfants, vous savez très bien que vous donnez beaucoup et que vous n'avez pas forcément, des fois, des retours. Et c'est ça, avoir l'amour. C'est de s'occuper de son prochain en sachant qu'il ne peut pas nous le rendre, en ne s'attendant pas de gloire, de bénéfices ou autre. Miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Être à l'exemple de Christ, se rapprocher de son reflet et être prêt à aimer ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés de la société. Les personnes qui souffrent, les personnes qui sont abandonnées par leur société, par la famille, par la santé. Et de ne pas se souiller par les pensées de ce monde rempli d'égoïsme et de réussite personnelle matérielle. Tout ce qu'on a vu entre la Bible et l'amour du prochain se résume dans les paroles célèbres de Jésus qui dit au verset 36, « Maître, qui est le plus grand des commandements de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras ton Dieu, c'est le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Sans amour, nos actions ne servent à rien, dit Paul en 1 Corinthiens 13. L'amour est présent dans tout ce qu'on dit aux autres, tout ce qu'on entend de Dieu. L'amour doit être présent dans ses paroles, doit être présent au centre de notre vie pour avancer. Regardez le miroir. Dans le miroir, nous pousse à avancer, à tendre vers Christ. Rappelons-nous un peu de cette parole de Dieu qui dit à Samuel, lorsqu'il doit remplacer le roi Saül, l'Éternel lui dit, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le miroir de la Bible va bien plus loin que de refléter notre physique. Il reflète également notre cœur. Vous vous rappelez un peu du nombre de temps et du nombre de fois qu'on passe devant le miroir ? Alors qu'on puisse s'encourager les uns les autres, qu'on puisse s'encourager en tant qu'église, en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'ami, en tant que voisin, à se regarder dans le miroir de la parole de Dieu, qu'on puisse se responsabiliser, que ça devienne une habitude. J'ai pas mal parlé de responsabilité que l'on a pour notre vie avec Dieu ce matin. Fais ci, fais ça, comme Jacques. Hein. Mais j'aimerais souligner une dernière chose qui est très importante. Verset 23, on l'a déjà vu, il dit « Accueillez avec douceur ou avec humilité la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » La responsabilité est d'accueillir. C'est grâce au Saint-Esprit, grâce à Dieu, grâce à la parole de Dieu qu'on peut être transformé. Tout seul, il est très difficile d'avancer et de changer. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Et des fois, on a du mal à lâcher. À avoir foi en Dieu. À se dire, je vais tout lâcher, je vais te suivre. Et de se dire, je vais arrêter de prévoir les plans des fois. La responsabilité d'accueillir, c'est grâce au Saint-Esprit, grâce à Dieu, grâce à la parole de Dieu qu'on peut être transformé. Jésus-Christ, en mourant sur la croix et en ressuscitant, nous a fait prendre conscience d'une chose. Nous sommes perdus et tout seuls, nous ne pouvons rien faire. Romains 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors demandez de l'aide au Saint-Esprit d'avoir de la persévérance. Demandons ensemble au Saint-Esprit d'avoir la persévérance, de prendre notre responsabilité, d'avoir de l'humilité et d'avoir de l'amour pour être changé, être transformé, d'avoir cette discipline de se mettre à genoux, de prendre la parole de Dieu, de prier que lorsqu'on est sur le trajet en voiture, dans la rue, en transport public. J'aimerais vous inviter à sonder votre cœur, à sonder ce que vous voulez améliorer durant cette semaine. De vous regarder dans un miroir. Cela peut être des rancunes, des non-pardons, des orgueils, des refus de vouloir s'améliorer. Ou encore l'envie de posséder, de convoitise, l'hypocrisie, du besoin de dévaloriser les autres afin de se mettre en avant. Bref, il y a tellement de choses. Et si vous avez du mal peut-être à trouver quelque chose, j'aimerais vous encourager à juste passer des moments avec Dieu. Mais attention, parce qu'en passant des moments avec Dieu, vous allez avoir des choses à transformer, avoir des choses à changer. Mais heureusement, c'est toujours pour le mieux. Et j'invite juste la louange. On va juste prendre un chant et qu'on puisse avoir cette prière de se dire, bah, Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées. Psaume 139, examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et qu'on puisse juste passer un moment maintenant dans la présence de Dieu avec ce chant. C'est Dieu Tout-Puissant, c'est ça, Tout-Puissant. Et par la puissance de Dieu, de demander à nous transformer, à nous aider. Car par nos propres forces, nous n'arriverons pas. Par nos propres forces, nous n'arriverons pas. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit, de l'aide de Dieu. Je vais juste prier avant qu'on prenne ce chant. Seigneur, tu vois ce qu'on doit changer, ce qu'on doit améliorer. Et Seigneur, tu vois combien aussi c'est merveilleux de se dire que tu es le meilleur coach pour notre vie, pour nous aider à avancer dans cette vie, Seigneur. Et qu'on puisse être attentif à ce que tu veux nous dire. Qu'on soit attentif à ta parole. Qu'on soit attentif à ce que tu veux nous toucher ce matin. Quel endroit tu veux mettre en lumière pour qu'on puisse être toujours plus beau, qu'on puisse être toujours plus selon toi, selon qui tu es, que notre cœur puisse transparaître, que notre amour puisse transparaître, que ton amour puisse transparaître à travers de nous, qu'on puisse être des lumières partout où on va, Seigneur. Qu'on puisse être rempli de ce Saint-Esprit. Amen.